c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé l'hebdo aujourd'hui qui sera consacré en partie à la sortie du film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs. Audrey Dana va nous rejoindre dans une poignée de secondes, accompagnée de Michael Gregorio et Laurent Stocker de la Comédie Française. On parlera également aujourd'hui de La Faute à Rousseau. C'est les épisodes 3 et 4 qui seront diffusés mercredi sur France 2. Louvia Bachelier, que vous aimez aussi dans le rôle de Manon, dans Demain nous appartient, sera là avec nous. Et Maïra Schmitt également sera en ligne avec nous. Nous aurons le duo de tandem, ils sont de retour demain soir sur France 3. Astrid Veillon et Stéphane Blancafort seront nos invités exceptionnels aujourd'hui. Et puis en fin d'émission, vous le savez, le personnage de Louise a été tué dans Demain nous appartient. Nous reviendrons sur cet arrêt justement et sur son départ de Demain nous appartient avec Alexandra Naoum, son interprète. On évoquera également ses projets en fin d'émission. Et puis enfin, Valérie Brochard, également à la tête de l'émission Liberté, Égalité, Scolarité, sera notre invité. Prochain numéro, le quatrième avec Gérard Jugnot. Ça sera donc samedi à midi sur la chaîne LCP. On en parle avec Valérie au téléphone en fin d'émission. On va tout de suite commencer avec notre coup de cœur ciné. C'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré à Homme au bord de la crise de nerfs, le nouveau film d'Audrey Dana qui sort mercredi dans les salles. Quel plaisir de t'avoir déjà pour la deuxième fois de la saison, ma chère Audrey, qui est avec nous. Comment ça va?
Ça va très bien. Je suis si heureuse que le film sorte enfin sur les écrans. Ça fait quand même maintenant un moment qu'il est tourné. J'ai commencé à l'écrire en 2017. On l'a tourné en 2019. Donc autant vous dire que c'est un grand, grand, grand soulagement de pouvoir enfin le partager, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait du cinéma. C'est même pour ça qu'on raconte des histoires, c'est pour les partager. Donc un film sur une étagère, c'est très triste.
Et puis alors là, on va vraiment, moi j'ai retrouvé vraiment ta patte pour le coup dans la réalisation. Je sentais vraiment que les acteurs étaient vraiment dirigés par toi, on ressent ça. Moi j'ai eu la chance de le voir à l'Alpe d'Huez il y a maintenant quelques semaines, et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment un vrai petit bijou de finesse. On s'ennuie pas, il y a du rire, il y a aussi de l'émotion, on passe un peu par tous les états en voyant ce film.
Oui, on avait envie avec Claire Barré, ma co-auteure, de vraiment plus que de faire une comédie, vraiment faire quelque chose qui ressemble à la vie. Et donc on peut dans une même journée rire, pleurer, de faire ces grands écarts là. On avait très envie de ça, de faire un film humain, quoi, voilà, avec toute sa complexité d'émotions, même si j'ai un rythme de comédie, parce que je revendique en fait le divertissement, et rire c'est très 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 bon pour la santé. En ayant la chance de pouvoir les filmer pendant plusieurs semaines tous ensemble, du coup j'avais les possibilités aussi d'aller chercher des choses beaucoup plus profondes, et j'avais envie de ça avec ce film.
Alors c'est tourné dans la région magnifique du Vercors. On y suit le parcours de cet homme au bord de la crise de nerfs pour diverses raisons qu'on va découvrir à travers leur rôle à tous. Pascal Demelon, Thierry Lhermitte, Michael Gregorio, Laurent Stocker de la Comédie Française qui seront avec nous d'ailleurs d'ici quelques minutes aussi. Tu disais à l'avant-première justement à l'Alpe d'Huez à laquelle j'ai assisté que tu avais envie de montrer les hommes tels qu'ils étaient dans la vie de tous les jours, que tu avais envie de les effeuiller en quelque sorte dans ce film, même s'il y en a un que tu as effeuillé un peu plus que les autres.
Oui, en effet, en fait, c'est important de rappeler que tous les récits en fait qui sont donnés aux spectateurs sont majoritairement d'un point de vue masculin. Il y a 97% des réalisateurs sur Terre qui sont des hommes quand même. On n'est que 3% de femmes à porter notre regard. Donc tous les personnages masculins qu'on voit garçon, donc vu par un regard d'homme. Et là, moi, j'avais envie de porter un regard de femme, parce que moi, les hommes que je fréquente nous ressemblent tellement plus, en fait. Donc oui, j'avais envie qu'on retrouve notre père, notre grand-père, notre frère, notre mec, notre fils, notre pote, comme on les connaît. Et d'ailleurs, je suis partie en fait d'interviews anonymes d'une centaine de mecs pour vraiment tenter de faire une étude quoi sur les hommes. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que on est vraiment les mêmes, chacun dans nos différences, parce qu'on est tous les uns les autres différents, mais que on partage au final exactement les mêmes émotions. Et d'ailleurs, à ces 44 questions très intimes auxquelles il répondait anonymement, donc dans une très grande liberté, énormément de profils différents. Mais à la question, qui était la dernière question de mon interview, qu'attendriez-vous d'un film qui parle des hommes, ils ont quasiment tous répondu la même chose, qui montre que nous aussi on est sensible, qui montre que nous aussi on est fragile, qui montre que nous aussi on a peur. Il y en a même un qui a écrit qui montre que nous aussi on est des femmes. Donc vraiment, ce film aurait pu s'appeler « L'homme est une femme comme les autres » ou « La femme est un homme comme les autres ». Et d'ailleurs, je m'amuse de ça avec le personnage de Marina Hans. Donc oui, j'avais envie de les montrer à nu, de les montrer comme on les connaît. Et les femmes savent très bien de quoi je parle.
Alors, tu les as emmenées dans cette région du Vercors. Quelle a été, juste avant d'accueillir Laurent et justement Mickaël qui vont nous rejoindre, on va évoquer leurs meilleurs souvenirs de tournage aussi. Mais toi, en tant que directrice d'acteur, quel a été ton meilleur moment sur le tournage?
Franchement, ça a été une succession de moments incroyable. Il s'est passé quelque chose sur ce tournage d'hors du commun. Franchement, je le dis, il y a eu une entente, un alignement des planètes, une météo, c'est-à-dire qu'on a eu grand bleu tout le temps. J'avais une séquence de pluie, j'avais décidé de ne plus la faire sous la pluie parce que les effets spéciaux n'étaient pas en accord avec mon engagement écologique, on était obligé de couper des arbres pour faire venir les machines, etc. J'ai dit, tant pis, il pleuvra pas. Il a plu, du matin jusqu'au soir. Une pluie visible à la caméra. Les nuits où il était censé faire 0 degré, où je me disais, mon Dieu, ce décor est magnifique, mais bon, on a quand même des séquences de nuit, 0 degré, des acteurs qui ont froid, ils vont pas pouvoir se donner comme j'aimerais, c'est 15 degrés. Et leur entente, quoi. Toutes les scènes, mais les propositions d'improvisation, ce qui se passait entre les prises, l'amitié qui est née, sincère, on s'est tous revus beaucoup. On se dit tous qu'on va se revoir après un tournage, mais c'est pas vrai, on se revoit pas, on a nos vies, on a nos gosses, on a nos trucs, nous on se revoit. Il y a eu, merci à Dame Nature, quoi, qui nous a accueillis dans son ventre et choyé. Il y a eu une magie qui a opéré et qui a fait qu'on est tous tombés amoureux les uns des autres, quoi.
On a le regard justement maintenant de toi réalisatrice, on va prendre le regard des comédiens. Dans quelques instants, on va écouter la bande-annonce, Hommes au bord de la crise de nerfs. Merci Audrey d'avoir été avec nous. Juste après, Laurent Stocker et Mickaël Grégorio nous rejoignent. Merci Audrey.
Avec joie, merci à vous.
Bonjour messieurs, allons-y.
J'espère que c'est pas une secte.
Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici.
Terre happy. Quel mot de merde.
On se retrouve dans un instant. Bougez pas. Mickaël Grégorio et Laurent Stocker arrivent dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on revient pour notre spécial Homme au bord de la crise de nerfs. Et on vous l'avait promis, ils sont avec nous, Mickaël Grégorio et Laurent Stocker de la Comédie Française. J'aime toujours quand même le spécifier. Bonjour Laurent et bonjour Mickaël.
Bonjour.
Salut, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ça me fait super plaisir de vous avoir. On va parler évidemment un peu plus de Noé et Michel avec vous. On a planté le décor avec Audrey de cette excursion à la campagne qui dure 4 jours, de ces hommes un peu qui traversent une crise existentielle. Mais on va parler un peu plus de vos crises existentielles à vous dans le film. On commence par Laurent. On va parler de Michel.
D'accord.
Alors, est-ce qu'on peut présenter un peu ce personnage?
Michel, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui est chauffeur de métro, qui passe sa vie sous terre. Et il se trouve que il a des difficultés dans la vie pour s'exprimer tout court parce qu'il est un peu, il a une sorte de forme d'autisme. Et cette semaine dans la campagne avec la coach et tous les autres personnage l'aide à surmonter ses peurs et il arrive un petit peu comme ça à s'en sortir. Voilà. Mais c'est un personnage, j'aime beaucoup les personnages atypiques et les personnages qui sont entre guillemets hors normes. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça, j'ai beaucoup aimé jouer ce rôle.
Et il siffle très bien en plus. Hein.
Il siffle très bien parce qu'il se prend pour un oiseau.
On va y revenir dans un instant. Alors, on va parler du personnage de Noé, Mickaël, premier grand rôle au cinéma que t'as offert Audrey, ça aussi. Ça, c'est un sacré cadeau.
Ah, c'est un cadeau merveilleux. Un cadeau merveilleux à tout point de vue, le personnage, les camarades qui m'entourent, les chansons de Yael Naïm à chanter dans le film, c'est plein de belles premières.
Ah, petite particularité en plus, c'est que t'as pu pousser la chansonnette. Alors on savait déjà, pour tous ceux qui ont pu avoir la chance de te voir sur scène, que t'avais une voix incroyable, mais alors là, on le vérifie encore un peu plus, hein.
Merci beaucoup. Et j'étais aussi très touché de faire ces chansons avec David Donatien et Yael Naïm, qui ont composé les deux chansons que je chante dans le film.
Magnifique.
C'est un cadeau merveilleux, vraiment.
Non, et puis il faut dire que tu chantes très bien surtout. Parce que si c'est mal interprété, une chanson, ça peut être l'horreur. Et quand il y avait l'enterrement de...
Du coq.
Robert. L'enterrement de Robert. On a même, nous, alors que c'est une fiction et quand Mickaël s'est mis à chanter, on était très émus. C'est toujours émouvant d'avoir un grand chanteur avec soi. Ça élève l'âme, je sais pas comment dire.
Bah, merci beaucoup. D'autant que, enfin, moi, je suis très content parce que on m'a laissé faire les prises en live. C'est-à-dire que le son de ma voix que vous entendez, c'est le direct, le jour du tournage. Peu importe avec les fausses notes, c'est pas grave. Ça n'a pas été refait en studio. Et c'est ça qui est, du coup, c'est vivant. Et même à la fin, quand je suis dans le studio d'enregistrement, toute la première partie de la chanson, qui est rubato, c'est-à-dire le rythme, il bouge, c'est pas cliqué, c'est pas un rythme qui est défini. Et bien là aussi, c'est la prise du jour dans le studio. Ça c'était chouette. Souvent dans les films, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et là, Audrey et les personnes qui s'occupent du son m'ont laissé faire ça. C'est vraiment chouette.
Comment tu le définirais, Noé?
Bah, Noé, c'est un jeune papa, un jeune trentenaire qui gère un peu tout à la maison. C'est-à-dire que sa femme est très 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 occupée. Elle travaille dans un orchestre. Elle a pas trop le temps et il gère le bébé, le boulot. Il est un petit peu débordé et de temps en temps, ce qui déborde aussi, c'est ses grosses colères, quoi. Il pète des plombs et voilà, il a du mal
à canaliser.
Il a du mal à vivre ça et ça peut monter comme ça d'un coup d'un seul, alors que c'est plutôt quelqu'un d'assez doux, d'assez moderne entre guillemets dans sa façon de voir les rapports hommes-femmes, et de temps en temps, gros pétage de plomb.
Alors, vous êtes super bien entouré, évidemment, François-Xavier de Maison, Thierry Lhermitte, Max Bessette de Malglaive, Marina Hans, enfin vraiment c'est incroyable de se retrouver comme ça dans le Vercors, sur un tournage avec un joli décor en plus, et de se retrouver un peu en autarcie, seul pour le coup. Hein.
Seul et en même temps, le Vercors, c'est moi je connaissais un petit peu la région, mais rester un mois en immersion tous ensemble là-bas, c'était magnifique parce que on a recréé une sorte de petite troupe de et puis on a beaucoup ri, et ça c'est quand même très 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 important.
C'est vrai qu'on a beaucoup ri. Finalement, les moments d'attente qu'on peut avoir dans les tournages, là c'était des moments de création de personnages, d'improvisation, enfin c'était...
On a beaucoup filmé aussi, des sortes de sketchs qu'on faisait entre nous avec François-Xavier, c'était vraiment joyeux et festif, et c'est ça qui se ressent aussi dans le film, je crois, cette unité là. Si un film choral est vraiment unifié comme ça, je trouve que là pour le coup c'est réussi.
Comment elle est, Audrey, en tant que réalisatrice?
Elle est extraordinaire parce qu'elle a une positivité. Audrey, c'est quelqu'un qui n'est jamais fatigué. Quoi qu'il arrive sur le tournage, elle dit, c'est pas grave, on fait pas ça, on fait ça de l'autre côté, et elle nous donne une énergie, je souhaite à toutes les actrices et tous les acteurs français de tourner une fois avec Audrey Dana, parce que c'est jamais quelqu'un qui démarre la journée en faisant, waouh, putain, on a une grosse séquence, là, tu vois. Oui. Non, c'est toujours, et du coup, les séquences qui ont été les plus difficiles, elles sont passées comme une lettre à la poste grâce à sa positivité. Et puis alors, elle est très preneuse d'improvisation, de choses, et du coup, quand on est en confiance avec une réalisatrice comme ça, elle peut tout nous demander, quoi.
Moi j'adorerais parfois, normalement un réalisateur il dit coupez,
mais elle faisait coupez,
Génial, super. Oh les garçons.
Mais en plus, alors moi, il y a des tournages sur lesquels je trouve le temps long, je dois dire, ou des répétitions de théâtre. Mais là, je ne voyais pas passer les journées. Ouais. Quelquefois, on dépassait un peu même. On disait bon, bah, je sais pas, non, ça fait 10 heures qu'on tourne. J'ai l'impression qu'on avait fait, ça faisait un quart d'heure, quoi. Ouais. Parce que c'est festif. Encore une fois, c'est si on perd ça dans les métiers qu'on fait, puisque c'est des métiers qu'on a choisis, c'est vraiment un choix de ce métier. Alors, il faut toujours qu'on garde la joie de le faire.
Et puis, on dit qu'on va jouer. Enfin, c'est quelle chance extraordinaire de dire ça. On va jouer.
Voilà, il y a le jeu. Le jeu, c'est faut jamais perdre ça. C'est primordial. Ouais.
Votre scène qui restera, on va dire, dans vos souvenirs, peut-être toute votre vie sur ce film.
Là, on peut parler de quelque chose qui a été très difficile. On a été enterré une journée entière, jusqu'au cou. On a vraiment été enterré. Donc ça, moi, je garde. Comme moi, je suis claustrophobe, ça a été très dur pour moi cette journée.
Ah ouais, donc vous en avez vraiment bavé là. Il n'y a pas eu de sortie entre les deux ou vous avez amené à manger comme ça.
On a eu une ou deux sorties sur toute
une
la journée.
Une seule. Moi, je me souviens très bien. On a été déterré une fois.
Alors qu'on était, on a passé la journée vraiment en plein soleil.
9 heures.
Pas pouvoir se toucher le visage avec les.
Avec des bêtes qui nous montent dessus et qui sont dans la terre qu'on sent. Enfin, pour quelqu'un claustrophobe, c'est atroce.
Bah, nickel, c'est la même.
Ouais, tout.
Un exercice chamanique. Hein. Vous allez avoir la scène. Hein. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Puis ça dure. Alors on se dit, oui, ça a dû durer un petit moment quand même, parce que la scène a duré un moment dans le film quand même.
Ouais. Ah oui, non, mais c'était moi, c'était un calvaire réel. Enfin, j'ai beaucoup souffert sur. Mais en même temps, avec le recul, je me dis bon, bah voilà, c'est un vrai exercice chamanique pour avoir la sensation de sa propre mort qui arrivera tôt ou tard.
On termine par vos projets. Qu'est-ce qui nous attend, Mickaël, de la scène? Une tournée toujours?
Voilà, je serai en tournée avec mon nouveau spectacle, l'Odyssée de la voix, un petit peu partout. Voilà, je suis sûr qu'on viendra en Nouvelle-Aquitaine, c'est certain.
J'espère bien. Laurent,
moi, je joue Harpagon, l'avare, dans une mise en scène de Dilobor. Puis il va y avoir la sortie de la série, de la saison 2 de Jeux d'influence sur Arte, et puis également Oussekine Disney Plus sur l'affaire Malik Oussekine avec Cadmerade.
Et ben, que des belles choses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette spéciale Homme au bord de la crise de nerfs. Je vous dis à très bientôt.
Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau.
Tu m'aides à cueillir les carottes?
Non.
J'essaye de réduire ma consommation de viande.
Oh, je suis vegan.
On peut plus de vos trucs de pique-nique, là, moi j'en peux plus, j'ai mal au ventre.
Exprimez-vous.
Je suis pas bien.
J'ai peur.
Ouais, je crève, là.
Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Toujours.
Oui, parfois dans la gueule aussi.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré évidemment au grand retour de Tandem, la série qui cartonne sur France 3 cette semaine pour une nouvelle saison inédite. Et puis c'est la première fois qu'on les a tous les deux ensemble. Alors on va pas bouder notre plaisir de ce couple qui s'aime plus. Enfin bref, on sait plus trop, mais quel bonheur d'avoir Astrid Veillon et Stéphane Blancafort avec nous. Bonjour.
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 Alors, une interview en duo, c'est ce que je disais pour la première fois. D'habitude, on vous a séparés. Bah là, au moins, voilà, on vous a rassemblés pour cette nouvelle saison inédite. Première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que chaque année, c'est une surprise de voir la série se renouveler comme ça? Est-ce que c'est un cadeau à chaque fois de revenir?
Bah, c'est toujours un plaisir de revenir, d'être là encore, d'exister. C'est la saison 6 que vous allez voir là. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'être encore là. Dans un monde où tout va vite, et ben nous, on persiste et on signe. Et effectivement, on a la chance d'avoir des auteurs qui ont beaucoup d'imagination. Et c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas.
Non. Non, c'est clair, c'est une surprise encore d'être là. Et quand on se retourne de voir qu'on est en saison 6 déjà, et quand je l'annonce, quand j'en parle aux gens, j'ai toujours l'heureuse surprise de me dire ça fait quand même déjà 6 ans qu'on est dans la course. On aura bouclé en fin de saison 72 épisodes. Je trouve ça énorme, je trouve ça monstrueux. Et le fait de se renouveler à chaque fois, c'est leur métier aux auteurs. Donc ouais, heureux et surpris, voilà, pourvu que ça dure.
Mais c'est bien parti, en tout cas, parce que les spectateurs sont tout le temps évidemment au rendez-vous. Le fil rouge, un peu, de cette nouvelle saison. Parce qu'il y a souvent quand même un peu des histoires un peu fil rouge et qui nous accompagnent au long des 12 épisodes que compose la saison. Quel va être un peu ce fil rouge ce coup-ci?
Il y a pas mal de rebondissements, notamment dans la vie de Paul. Et puis notre fille, elle nous connaît pas mal de problèmes aussi.
Hein, on va Sarah et Yanis back.
Sarah et Yanis back et puis ouais. Bien back. Il y a plus de tensions. Les polars sont un peu plus sombres, mais on reste dans le feel good et voilà. Et Léa va être en position un peu délicate. pendant la grande partie de la saison, hein, si je ne m'abuse.
Ouais, ouais.
Elle est de plus en plus isolée. Paul file le parfait amour avec Inès. C'est un peu compliqué pour Léa.
Elle a du mal à voir, hein, justement, malgré tout, malgré la séparation, le divorce et tout. Elle a du mal à voir cette relation avec Inès. Elle la vit mal.
Non. Je dis non. Non, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il s'aime plus. Non, on s'aime toujours, ouais. Mais on sait pas comment s'aimer. Je pense que c'est ça, en fait.
Il se cherche.
Voilà. Ouais. Je pense que je me trompe pas en disant que Paul et Léa, ils s'aiment pour la vie, de toute façon, et c'est ce qui fait toute la problématique. Mais ils ont une peur panique de se remettre ensemble et de retomber dans l'échec. Voilà.
C'est dingue, hein. Parce que même à l'intérieur, quand on travaille, nous, quand on fait nos séquences, moi, je suis toujours un peu en souffrance de cette situation. On aimerait qu'ils s'aiment et que tout soit simple et que ça roule. Et il y a ce petit truc que je n'ai pas défini encore qui fait que c'est impossible à vie. On ne sait pas, il faudrait qu'on arrive à trouver la clé de ce cadenas qui nous verrouille là. Ça m'énerve. Non, c'est vrai. Et ils s'aiment. Ils s'aiment profondément d'une façon assez unique. Mais il y a un truc qui bloque. Il y a ce petit truc là. Je ne sais pas ce que c'est.
Alors, il y avait le père de Léa aussi, hein, qui a fait son arrivée. Alors là, au grand dam de Léa, quand même aussi.
Oui, mais ça y est, il est intégré.
C'est arrangé, ça, tout ça.
Ça s'est arrangé, et puis c'est un allié solide. Ouais. Donc, c'est quelqu'un, Patrick, qui prend de plus en plus de place dans la série, et tant mieux. Et c'est un super partenaire de jeu, et c'est vrai qu'il est devenu vraiment une clé, même dans le couple Paul et Léa. C'est un peu lui qui essaye à chaque fois d'arrondir les angles, etc.
C'est quoi les grandes thématiques qui vont être mises un peu en avant dans cette saison?
On a le gendre joué par Julien, l'amoureux d'Alice, qui va être impliqué dans un des épisodes sur un meurtre. Donc on a ce lien avec la... Ça chamboule un peu parce que c'est pas facile de gérer la famille et le travail. Mais là, ce travail est quand même particulier, c'est-à-dire qu'on a affaire à des meurtres à chaque fois. Donc là, notre gendre est lié à une affaire directement impliquée.
Il y a aussi un double épisode où Paul est suspecté. C'est bien chargé encore cette saison, hein. Vous allez être, à mon avis, bien surpris parce que, encore une fois, c'est vrai qu'il y a ce que vous disiez à juste titre, il y a une espèce d'envie de se renouveler et de pas tomber dans la monotonie ou dans la facilité. Et Steph et moi, on est vraiment très gardiens de tout ça, quoi. On veut pas s'endormir et donc on booste un peu tout le monde et on a des auteurs qui ont plein d'imagination. Donc à chaque fois, nous-mêmes, on est quand même pas mal surpris par cette façon d'arriver à impliquer à chaque fois la famille dans les enquêtes policières.
Ouais. Alors, il y a une particularité sur Tandem que vous me disiez l'année dernière, justement, c'est que ça tourne très vite, les 12 épisodes, vous les faites en gros en 3-4 mois. C'est super rapide, quoi. Vous tournez quasiment en double plateau en permanence, quoi.
On crossboard 4 épisodes sur 20 jours effectifs de tournage. On a juste les week-ends pour se reposer sur ces sessions-là. Il y en a 3 par saison, puisqu'on fait 12 épisodes. Ouais, c'est un rythme très soutenu. Moi, honnêtement, j'ai pensé sur les pilotes qu'on n'y arriverait pas, parce que c'est quand même un sacré challenge. Et on arrive à trouver ce rythme-là. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on s'entend vachement bien. Il n'y a pas de perte de temps sur quoi que ce soit, quoi. Ça roule.
Et puis, on travaille beaucoup sur les textes en amont aussi. On fait des lectures. On a un vrai travail avant, ce qui nous permet de pouvoir après se concentrer que sur le jeu et le plaisir quand on est sur le plateau, quoi.
Et oui, il y a beaucoup de préparation et puis maintenant vous connaissez, oui, je pense, oui, par cœur aussi. Et ça aide, ça joue et ça vous permet d'aller plus vite.
On perd pas de temps du tout, quoi. Puis il y a une vraie écoute et une vraie attention. Voilà, ça n'empêche pas qu'on rigole beaucoup quand même, hein. Voilà.
Oui.
Mais on est très attentifs aux uns aux autres.
On donnera la parole évidemment à Sarah Cheyenne aussi, hein, les semaines qui viennent pour nous parler aussi de cette saison et de son grand retour, parce que elle avait été un peu absente, évidemment, ici tout commence oblige, mais elle avait été absente un petit peu des deux dernières saisons. Donc voilà, c'est vraiment son grand retour cette saison-ci pour notre plus grand plaisir, en tout cas aussi.
On a des enfants qui grandissent, qui deviennent adultes, et donc forcément ils entrent dans une dynamique de vie professionnelle où ils ont quand même des choses à jouer qui sont assez nouvelles aussi.
Oui, non, moi je suis fière de mes enfants.
Est-ce qu'il y a des projets pour 2022? Est-ce que ça laisse du temps du coup entre deux, peut-être des téléfilms, théâtre, cinéma? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous deux?
Alors le code pour France 2 avec en rôle titre Daniel Lobé, le crime à Biote sous la direction de Christophe Duchamp, La faute à Rousseau produit par DEMD.
Saison 2.
La saison 2 effectivement, dans les premiers épisodes réalisés par Octave Raspail, que j'ai eu la grande joie de retrouver sur ce plateau puisqu'il est réalisateur chez nous aussi. Voilà.
Avec notre Charlie Dupont qu'on adore évidemment et qu'on embrasse en même temps. À Astrid?
Eh ben moi j'ai mon roman qui est toujours là, qui existe, qui s'appelle Pourquoi nous, qui est sorti donc en juin 2021 et qui fait un bon bonhomme de chemin. Et puis j'ai tourné un double épisode de la série Léo Mattei avec un rôle complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, avec un casting un peu hallucinant qui passe de Stomy Bugsy à Laurent Ournac en passant par Angoon et évidemment Jean-Luc Reichmann et Liliane Rouvet avec qui j'avais des scènes de dingue et je suis trop contente. Donc belle expérience, voilà. Et puis on est content de retrouver les plateaux de Tandem pour cette saison 7 que nous allons nous apprêter à tourner. Voilà.
À peine la saison 6 qui arrive et voilà, ça va très très vite en tout cas sur Tandem et on vous retrouve pour notre plus grand plaisir et bien dès demain pour la nouvelle saison inédite demain mardi à 21h05 sur France 3 pour les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison. Merci infiniment à tous les deux.
Merci à vous.
Il cherche. Il se cherche.
Dis-moi.
Ils y sont presque.
J'imagine que t'as trouvé la scène de crime primaire.
Eh oui.
Et pourtant...
Eh ben, bonne soirée.
Ouais, ben, toi aussi, à demain.
Astrid Veillon et Stéphane Blancafort se retrouvent pour une nouvelle saison inédite.
Notre coup de cœur télé va s'attarder à La Faute à Rousseau. On en a parlé la semaine dernière avec Octave Raspail, mais aussi Lou Gauthier, la productrice, et également Charlie Dupont. Et on va continuer cette semaine avec celle que vous aimez tant, évidemment, dans le rôle d'Héloïse Mattei. Mais pas que, les 7 vies de Léa en ce moment sur Netflix et un épisode centré sur le personnage d'Inès dans La Faute à Rousseau, mercredi sur France 2. C'est Mayra Schmitt qui est notre invitée. Bonjour ma chère Mayra.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir, surtout qu'en plus on te voit sur tous les fronts en ce moment, entre Léo Mattei, entre toutes les séries dans lesquelles on te voit, cette série sur Netflix aussi, vraiment de beaux projets, ouais. Dis-moi, pour 2022 là.
Eh ben oui, 2022 commence très très bien, sur les chapeaux de roue comme on dit, avec toute l'actualité de 2021 qui commence à sortir et à émerger avec des personnages différents et ça fait du bien, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on fait ce métier.
Oui, c'est clair. Alors là, tu vas incarner mercredi dans le premier épisode de la soirée à 21h10. Ça va être centré sur Inès. Alors pour ceux qui connaissent pas Faute à Rousseau, on suit évidemment le parcours scolaire de lycéens avec leur prof de philo. Et donc on te voit tout au long des épisodes. Mais il y a un épisode centré particulièrement sur toi, c'est celui de mercredi, puisque le personnage d'Inès est enceinte et va se poser la question de savoir, voilà, est-ce que le personnage accouche sous X, est-ce qu'elle va garder le bébé, la relation aux parents, le prof de philo qui va essayer de se mêler un petit peu de tout ça. Et puis voilà, on découvrira évidemment la décision d'Inès dans l'épisode. Mais un beau rôle à défendre, mine de rien, une belle intrigue à défendre, parce que c'est quand même d'actualité aussi.
C'est clair. Et puis surtout, c'est des rôles qu'on n'a pas l'habitude de jouer à mon âge, on en voit très peu. Donc pouvoir reparler de tout ça un peu à la Juno il y a quelques années, au début des années 2000, ça fait du bien, c'est important. Et puis j'espère que ça pourra aider ou aiguiller certaines personnes qui peuvent se trouver dans cette situation qui est quand même très difficile à gérer. Parce que du coup, je l'ai pas vécu véritablement, mais je l'ai joué et ça m'a fait me poser plein de questions sur la vie, donner la vie, vivre la vie. Et puis l'âge qu'on a, la société, tout ce qu'elle nous impose et avec laquelle il faut composer tout le temps. Donc c'était très très important pour moi de défendre ce rôle et de donner corps à Inès et à son bébé. Bah, ça me tient à cœur de faire des films pour donner de la voix à ceux qui ne peuvent pas en avoir et puis pour traiter de choses de la société, même à travers des films. Je trouve que c'est important et c'est pour ça que je fais ce métier.
Alors peut-être une des comédies que t'as fait, c'est évidemment Mention particulière, où tu joues la sœur de Marie Dalzotto, mais est-ce que t'as envie aussi des fois, de temps en temps, qu'on t'offre des personnages un peu plus solaires, un peu plus lumineux, aussi de la comédie?
Bien sûr. Bah, souvent en fait, au final, dans les histoires un peu dramatiques, je me retrouve à avoir quand même un petit côté un peu joyeux, parce que bon, je pense que c'est aussi le naturel qui revient au galop, comme on dit. Mais non, j'adorerais jouer des histoires drôles, des comédies. Enfin, moi, j'adore ça, donc pouvoir en jouer, ce serait génial aussi. Et puis, malgré tout, on peut dire plein de choses, même à travers des comédies, à travers des personnages solaires, lumineux, qui donnent envie d'être écoutés. Et donc voilà, c'est ce mélange que j'aime aussi beaucoup, de pouvoir interpréter plusieurs personnages et de pouvoir mettre un peu de lumière dans les drames et un peu d'ombre dans les comédies. Je trouve ça très important, quoi.
Alors moi, j'aimerais savoir comment tu vois Inès, toi, vue de Mayra.
En fait, c'est drôle parce que je la voyais, je la vois en couleur, moi, du coup, quelque chose de pâle et tout ça. mais qui cache une grande envie de prendre des vraies décisions et d'avancer dans la vie. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a construit avec les costumes, quelque chose de voilà qui est coloré mais à la fois pâle. Et en fait, on sait pas trop ce qu'elle veut, elle sait pas trop ce qu'elle veut non plus, parce qu'en fait, tous ses choix vont avoir une importance colossale. Et moi, c'est ce que j'ai vachement aimé avec elle, c'est que malgré tout, elle reste accrochée et campée sur ses décisions, même quand on pense que c'est pas elle qui les prend. Elle réfléchit, elle est intelligente, et malgré toute l'émotion qui peut la submerger, elle reste quand même vachement les pieds sur terre. Et voilà, j'en dis pas plus, mais
exactement.
C'est comme ça que je la vois.
Quelques mots sur Roman, dans Les 7 vies de Léa, ça vient d'être mis en ligne sur Netflix. Alors, cette série me fascine totalement, parce qu'on y suit un personnage qui va se réveiller chaque matin dans la peau, dans le corps de quelqu'un d'autre, pour essayer de tenter de sauver un jeune homme de la mort, puisqu'il a été, je crois, assassiné quelques années plus tôt, c'est ça, hein?
Ouais, c'est exactement ça. Enfin, moi, le rôle que je joue du coup en fauteuil roulant, donc c'était un challenge que j'ai adoré relever. Mais c'est sûr que le côté fantastique et tout ça, ça m'a directement embarqué, quoi. Rien qu'en lisant les scénarios, j'avais envie de connaître la suite, alors que généralement dans les séries, je mets un peu de temps à tout finir, à tout lire, et puis là j'étais prise dès le début, quoi, pour ces personnages et pour cette histoire de remonter dans le temps. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique qu'on peut se permettre de faire que dans les films, quoi.
Ah, c'est l'ordre du fantasme, évidemment. Quand même, hein. C'est un des plus grands fantasmes, de pouvoir changer le passé en remontant dans le temps et changer le présent. C'est sûr.
Ouais, c'est exactement ça. Bon, le personnage, moi, je l'adore, le personnage de Roman, donc j'ai adoré jouer et l'interpréter, surtout que j'avais une très bonne partenaire, Aïka Azanavicius, qui joue Léa.
Ah, oui.
Qui est vraiment géniale, donc c'était vraiment très très chouette de pouvoir faire ce film. Léa, donc, dans les années 2021, elle remonte pas du tout dans le temps.
Donc elle reste en 2021, c'est un peu le point de repère.
Elle reste, exactement, c'est la seule qui voyage pas du tout dans le temps. Même si elle est en fauteuil roulant, malgré tout, c'est elle qui a les pieds le plus sur terre et qui est le plus ancrée dans la réalité et dans quelque chose d'assez concret. Donc voilà, Romane, c'est un peu le point de gravité qui lui dit « maintenant ça suffit les conneries, reviens un peu à la vie réelle et fais attention à toi ». Et voilà, c'est toujours des personnages avec de la bienveillance et moi j'aime beaucoup. Et puis de l'amitié sincère et voilà qui transparaît à l'écran, je pense, entre Léa et Roman, voilà.
Et ben c'est un très très beau projet en tout cas. Léo Mattei va fêter sa 10e année cette année, sa 10e saison. Je suppose que toute l'équipe est déjà sur le pont en train de préparer cette nouvelle saison qui sera tournée cette année.
Je pense. J'ai pas encore trop de nouvelles, mais je pense.
Merci infiniment, Maïra, d'avoir été avec nous. On te retrouve donc dans La Faute à Rousseau. C'est mercredi à 21h10 sur France 2. On te retrouve dans les 7 vidéos également sur Netflix actuellement. Bientôt de retour aussi dans Léo Mattei. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Écoute, je pense que je peux le dire. On va faire une suite d'Histoire du Diable qui avait été un téléfilm pour TF1.
Oui, avec Philippe Basse.
Exactement.
Qui joue ton papa.
Donc on va tourner, qui joue mon papa. Un autre papa en plus. Et qu'on va tourner cet été, je sais pas encore où, mais en tout cas, c'est un beau projet. Moi, j'aime beaucoup pouvoir explorer tout ce côté action et
c'est moins qu'on puisse dire, voilà. Oui.
Voilà, un mélange entre action et émotion, donc c'est assez chouette.
Bon,
voilà.
On te souhaite un bon tournage avec Philippe et puis des joyeuses retrouvailles avec cette série pleine d'action et de paysages absolument magnifiques.
Voilà,
on vous souhaite une bonne suite là-dessus, qu'on aura plaisir évidemment à reparler, notamment avec toi. Merci beaucoup, Maïra.
Avec grand plaisir. À très bientôt.
Et on va tout de suite écouter un petit extrait, La Faute à Rousseau, c'est donc mercredi, c'est un 21h10 sur France 2, c'est notre coup de cœur.
Bonjour, ça s'est bien passé ton rendez-vous?
Oui, nickel.
C'était marrant de te croiser à l'hôpital, tout va bien, t'es sûr?
Oui, puisque je vous le dis.
Non, parce qu'à l'étage où on s'est vu, il y a de la cardio, il y a de la gériatrie, et comme t'es mineur et qu'il y a des services sociaux, je m'étais dit, tu vas pas le garder, le bébé?
Bon, écoutez, je vais pas avoir un enfant à 17 ans comme une meuf de télé-réalité, là, c'est bon.
Ma mère m'a eu à 17 ans. Non, c'est pas vrai.
Et on va continuer à mettre les élèves de La Faute à Rousseau à l'honneur avec Louvia Bachelier. Vous l'adorez dans Demain nous appartient dans le rôle de Manon. Où vient de faire d'ailleurs son grand retour. Mais on va parler également de son personnage dans La Faute à Rousseau puisqu'elle est avec nous en ligne. Bonjour Louvia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors si tu viens de faire ton grand retour dans Demain nous appartient, eh bien on te voit en même temps dans La Faute à Rousseau, au hasard des calendriers. Mais quel bonheur de te voir aussi dans autre chose que le rôle de Manon. Et on va parler du test aussi d'ici quelques instants où tu es à l'affiche en VOD et en DVD en ce moment. Mais dis donc, ça chôme pas.
Ouais, non, pas du tout. J'enchaîne pas mal, mais c'est pas plus mal.
Bon, c'est génial. Alors tu incarnes Zoé dans La Faute à Rousseau, une jeune élève. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Zoé, Louvia?
Alors, Zoé déjà ouvre la saison 2 de la Corte Rousseau, car elle est dans le premier épisode. Son épisode qui d'ailleurs s'appelle Zoé et la responsabilité. Donc, c'est une jeune fille qui a perdu sa tante, qui est très stable, voilà. Mais qui est, elle est peut-être un peu trop parce qu'elle ne connaît pas bien ses limites et boit un petit peu trop en soirée. Mais du coup, ça peut présenter des risques et elle ne sait pas du tout si elle est responsable de ce pourquoi elle est accusée ou pas. Et donc, ça crée que ça crée certains doutes, certaines tensions aussi. Et donc, une certaine remise en question de sa part. Et on va la voir évoluer au cours de l'épisode, prendre en maturité et devenir un petit peu plus responsable, quoi.
Alors, moi, ce que j'aime dans La Faute à Rousseau, c'est qu'il y a un vrai message dans chaque épisode. Et c'est vrai que ton épisode, que moi, j'ai eu la chance de voir un petit peu avant les autres, pour le coup, je me suis dit, il y a un vrai message. Et le message qui veut dire quand même que, quel que soit son âge, il faut pas fuir ses responsabilités, mais les prendre. Et quel que soit son âge, c'est pas parce qu'on a moins de 18 ans aujourd'hui qu'il faut pas forcément prendre ses responsabilités. Et c'est vrai que c'est le message que tu fais passer à travers ce personnage de Zoé.
Ouais, exactement. C'est vrai. Et c'est pas mal d'ailleurs.
Mais oui.
Je pense que certaines personnes peuvent prendre l'exemple sur ce que va traverser Zoé et peuvent même s'identifier et donc en apprendre forcément un petit peu plus sur eux-mêmes à travers la série, quoi.
C'est ce qui t'a plu dans ce rôle, justement, dans le rôle de Zoé, parce qu'on va te voir tout au long des 6 épisodes, mais c'est vrai que ton épisode central sur toi, c'est le premier, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais ouais, moi j'ai été super honorée déjà d'être dans le premier épisode et c'est vrai que je suis super contente de traiter un rôle comme ça et qui est assez varié, on va dire, dans les émotions et. Enfin, c'est toujours hyper intéressant et c'est vrai que bah, c'est un sujet quand même qui touche pas mal de personnes, donc c'est aussi encore plus, on va dire, intéressant et enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi.
Ah, tu fais partie d'une famille d'acteurs, parce que je crois que tu as une sœur qui s'appelle Ilona, si je me trompe.
Oui.
C'est ça. Voilà, qu'on a vu dans de nombreuses fictions aussi. C'est elle qui t'a donné ce virus.
Alors, on va dire que oui, parce que moi, j'ai commencé très jeune, j'avais 4 ans. Du coup, je ne me souviens pas vraiment de comment je suis rentrée dans le milieu, mais ce que ma mère me dit, c'est que j'ai voulu faire comme ma sœur qui, du coup, elle s'est lancée dans le cinéma grâce à une prof de théâtre qui avait conseillé à ma mère de la lancer là-dedans. Et quand j'ai vu commencer, j'ai fait, bah, moi, je vais faire pareil. Et c'est marrant parce que le premier projet que j'ai fait, c'était donc avec ma mère et ma sœur qui jouaient, bah, ma mère et ma sœur.
Alors, Manon ouais. est de retour aussi dans Demain nous appartient. Je te le disais juste avant qu'on prenne l'antenne. Tu as pris la suite de Maïna qui a interprété le rôle juste avant toi de Manon. Jamais facile quand on reprend un ouais. rôle. Et toi, la particularité, c'est que t'as su vraiment prendre possession de Manon, te l'approprier, nous la faire peut-être découvrir autrement aussi. Et il y a des fois des recasts qui sont plus ou moins réussis. Mais alors, le tien est vraiment top, quoi. Franchement, bravo parce que c'est pas facile ce que t'as fait là.
Merci beaucoup. C'est gentil. Super gentil. Mais ouais, c'est vrai que au début j'ai été assez stressée parce que ouais, c'est trop délicat de remplacer quelqu'un, quoi. Et on m'a dit ne t'influence pas de ce qu'elle a fait parce que ça va pas être une pression trop grande. Approprie-toi le rôle à toi et joue comme tu veux. Et il m'avait déjà un petit peu parlé du coup du passé de Manon dans la série pour que je comprenne le rôle dans sa totalité, quoi, et que je me l'approprie.
Manon revient pour notre plus grand plaisir. Alors il va lui arriver quelques aventures, j'imagine, dans les semaines qui viennent, quand même.
Ce que je peux dire, c'est Manon va donc décider de faire un stage à la police. Parce que sa mère en a marre qu'elle ne fasse rien chez elle après entre ses petits boulots qu'elle essaye de faire pour gagner de l'argent pour faire un tour du monde. Et du coup, voilà, elle va s'identifier, elle va un peu se retrouver dans la police et donc elle va décider de faire un stage là-bas. Et il va se passer plein de petits trucs dans la famille Donnier et au commissariat.
Alors, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Manon s'est octroyé un peu une année sabbatique pour réfléchir à son avenir. Hein. C'est un peu ça quand même.
Voilà.
Hein?
C'est ça, c'est exactement ça.
Bon, on va découvrir ça. Alors, on te voit aussi à l'affiche de ce super film qui est sorti fin décembre dernier d'Emmanuel Poulain-Arnault, Le Test. Ça sort en DVD et VOD si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir au cinéma. C'est un film, une comédie menée tambour battant où on passe du rire aux larmes. C'est assez dingue. C'est un ascenseur émotionnel ce film. Tu y joues le rôle de la petite amie de Matteo Pérez. Alors, ce qui est assez drôle en plus, c'est que ça t'a pas trop éloigné de cette, j'ai l'impression, hein.
Oui, exactement, c'était au même endroit, ça m'a pas trop dépaysé.
Ça, c'était assez dingue, c'est la première réflexion que je me suis fait. Alors, tu y joues la petite amie, je te dis, de Matteo Pérez, qui joue le fils d'Alexandra Lamy, un des fils, qui va se retrouver, évidemment, soupçonné, lui aussi, de ce test de grossesse positif. Enfin, pas lui, évidemment, mais sa petite amie. Enfin, tout le monde va être soupçonné pour savoir à qui appartient ce test de grossesse positif. Et c'est la question à laquelle, eh bien, va tenter de répondre Philippe Catherine et Alexandra Lamy tout au long de ce film. On aura la réponse à la fin du film, bien évidemment. Alors, je vous conseille vraiment d'aller voir. Tu t'es amusé beaucoup avec Matteo et toute l'équipe?
Franchement, c'était une super belle expérience. Après, moi, mon rôle est pas hyper présent dans le film. On en parle beaucoup, mais moi, à l'écran, je suis pas si présente. Mais du coup, j'ai eu que 3 jours, mais c'était génial. C'était incroyable. Surtout qu'un long métrage, ça change totalement de la quotidienne, d'une série. Enfin, c'est vraiment une expérience géniale.
Alors, mon petit doigt m'a dit, Louvia, que lors d'une scène particulière sur la plage, une scène de rupture, on peut dire en quelque sorte, il a fait un temps de chien.
Oui, enfin, il y avait énormément de vent, en fait. On devait tourner sur la plage, donc là où il y a encore plus de vent. Du coup, on a dû se réadapter, tourner juste à côté d'un petit local. Enfin, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais pas, il est super froid. Allez, on a réussi à faire la séquence, et voilà quoi.
Alors, La Faute à Rousseau, c'est chaque mercredi, c'est 21h10 sur France 2. Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Et puis, pour combler le tout, eh bien, on va te retrouver également dans le film Le Test, aux côtés de Joachim Fossi, qui est un ex de Demain nous appartient aussi, mais Matteo Pérez, Chloé Barkoff, Alexandra Amy, Philippe Catherine. Un très très beau casting. Je vous conseille ce film en DVD et en VOD. Voilà, merci beaucoup Louvia d'avoir été avec nous.
Ben, y a pas de problème, merci à toi, c'est super de faire cette interview là.
Et puis on te dit à très très vite.
Ça marche, au revoir, merci beaucoup.
Et on se retrouve dans un instant avec Alexandra Naoum et Valérie Brochard. Alors surtout ne bougez pas pour la dernière partie de Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré également à LCP qui va vous proposer eh bien son rendez-vous samedi, le quatrième du genre. Ça s'appelle Liberté, Égalité, Scolarité, mené de main de maître par Valérie Brochard qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Valérie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors c'est quoi Liberté, Égalité, Scolarité? On a déjà vu trois numéros. Il y en a un quatrième qui sera programmé donc samedi avec Gérard Jugnot d'ailleurs qui vous confiera ses souvenirs d'école, mais pas que. Expliquez-nous le concept un petit peu.
Eh bien, c'est très très simple. Hein. L'idée, c'était de partir à la rencontre de tous ceux qui font l'école. On n'en parle pas assez, de tous ces instituteurs, institutrices, professeurs, cantiniers, cantinières, ATSEM, moniteurs, animateurs, bref, tous les personnels de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'extérieur, donc les partenaires aussi de l'école. On avait envie tout simplement de montrer leur travail, montrer leur passion, montrer toute l'énergie qu'ils mettent finalement à faire leur travail exactement, mais surtout à tout l'amour finalement qu'ils ont pour tous les enfants de France. Et voilà, c'était un petit clin d'œil, c'était aussi une manière de faire rentrer un peu les parents comme des petites souris dans les classes de leurs enfants. C'était aussi ça l'idée de cette émission.
Oui, ça c'est pas mal ça. Et puis alors avoir un artiste qui va évoquer ses souvenirs dans chaque numéro. Là, c'est Gérard Jugnot qui s'est prêté au jeu.
Exactement. Donc à chaque émission, on demande à une célébrité de nous raconter un peu ses souvenirs d'école. On a eu Boudère, l'humoriste. On a eu Alizé Cornet, la numéro 1 du tennis français. Et puis Gérard Jugnot, qui s'est prêté au jeu, il nous a ramené des photos de lui petit, en noir et blanc évidemment. On ne comptera pas le nombre d'années, mais voilà, des photos en noir et blanc et puis des anecdotes vraiment croustillantes. On s'est vraiment bien marré à réaliser cette interview.
Alors le quatrième numéro sera diffusé, on le disait, ça sera donc samedi à midi avec Gérard Jugnot, mais il y a eu trois autres numéros que vous pouvez voir déjà sur lcp.fr aussi pour vous faire une idée de ce que c'est Liberté, Égalité, Scolarité. Alors on le disait, hein, Valérie, il y a eu Alizé Cornet, il y a eu aussi Boudère, l'humoriste, mais après il y a eu des chanteurs aussi hyper talentueux sur le premier numéro quand même.
Exactement, exactement. C'était Julien Clerc et Didier Barbelivien qui ont eu la fantastique idée, la fantastique inspiration de composer et d'écrire une chanson dans le dernier album, hein, donc de Julien Clerc qui est sorti le mois dernier, qui est sorti il y a deux mois, je crois, sur sur une institutrice. Donc la chanson s'appelle Mademoiselle. C'est une ode vraiment à l'école, à l'école et puis à cette institutrice qui a marqué. Julien Clerc et Didier Barbelivien. Enfin voilà, c'est l'inspiration de leurs souvenirs d'école à eux aussi. C'est pour ça qu'on avait décidé de les rencontrer, de les interroger. C'est une très très belle interview. C'est une très très belle interview.
Alors Valérie, il n'y a pas que ça, puisque aujourd'hui LCP veut essayer de toucher de plus en plus les jeunes aussi. Et donc aujourd'hui LCP a investi TikTok pour être au plus près d'eux justement. Et vous êtes le visage emblématique justement de TikTok, de la chaîne LCP, pour pouvoir justement vous adresser aux jeunes. Hein.
Absolument, absolument fantastique idée, encore une fois, de la chaîne parlementaire, tout simplement de vulgariser la politique. C'est compliqué les arcanes du pouvoir, c'est compliqué l'Assemblée nationale, mais quand on décide de réduire ça sur une minute, sur un petit format un peu sympa avec des mots simple, eh bien ça devient très très facile. Et c'était vraiment l'idée, l'objectif de ces petites vidéos. Donc maintenant on en est à la 10e, 12e vidéo que je vous invite à suivre, et sur Instagram et sur TikTok. Et on a de plus en plus de gens qui nous suivent justement sur ces réseaux sociaux, parce que on décrypte, on vulgarise vraiment la politique, et c'est donné à tout le monde, et tout le monde peut comprendre très 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 facilement, avec un peu de sourire évidemment, comment ça se passe finalement.
Eh ben oui, exactement. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous samedi, c'est à midi, Liberté, Égalité, Scolarité, 4e numéro, avec Gérard Jugnot en guest. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. Et puis on s'est dit à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
L'invité d'honneur de la semaine.
De retour dans Chut, on écoute la télé avec Alexandra Naoum, qui est notre invitée aujourd'hui. Vous savez, elle interprétait ce rôle qu'on aimait tant de Louise dans Demain nous appartient. Et Alexandra est avec nous. Bonjour Alexandra.
Salut.
Ça nous fait plaisir de t'avoir. T'es une fidèle de l'émission, je t'avoue.
Ouais.
Il y a une semaine, avoir été complètement choquée par la disparition de ton personnage qu'on aimait tant. C'est absolument incompréhensible aujourd'hui. Mais pour remettre un peu les choses dans l'ordre, évidemment, ce n'est pas un choix de ta part. Hein. C'est pas toi qui as décidé de quitter la série, mais c'est un choix plutôt scénaristique, hein, du coup.
Oui, je crois que le désir des scénaristes était de créer de la surprise, de créer du polar, et que cette fois-ci, ça s'est porté sur mon personnage. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, l'effet de surprise a marché.
Ah, c'est plutôt une onde de choc, hein, j'ai l'impression, moi.
Ouais. C'est vrai que je me disais, Louis, c'est pas du tout un personnage qu'on s'attend à voir partir. Mais quand je lis là les réactions, je me rends compte qu'effectivement, le public a été choqué.
Qu'est-ce que t'as aimé avant tout chez elle?
Alors moi, j'ai adoré le personnage de Louise à son arrivée. J'ai adoré cette femme de caractère qui était en train de batailler avec ses deux enfants, mais qui réussissait malgré tout à toujours garder le sourire et puis à pas se laisser abattre. Voilà, j'aimais bien les valeurs qu'elle leur transmettait. Puis j'ai adoré son coup de foudre avec Bart, enfin la façon dont elle a dû gérer cette différence d'âge. Voilà, c'est la première fois qu'elle se retrouvait dans cette situation qu'elle avait, je pense, a vu venir. Et donc il y avait toute une partie qu'on a tournée qui ressemblait un peu de la comédie romantique. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça.
Alors aujourd'hui, évidemment, Louise laisse un Bart totalement dévasté par la situation. Humainement, comment vous avez vécu les choses tous les deux avec Hector?
Quand on a appris la nouvelle, tu veux dire?
Ouais, quand vous avez tourné vos dernières scènes, ça a dû avoir une saveur particulière quand même.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que les dernières semaines avaient une saveur un peu différente. Qui a été assez joli, c'est que donc j'ai pas fini par les scènes du mariage. Et voilà, c'est qu'il y a eu quand même cet événement qui, dans la fiction est le mariage, mais dans la réalité, c'était quand même un événement qui nous réunissait tous, tu vois. Et donc c'est vrai que c'était assez émouvant à tourner toutes ces séquences. Et j'ai fini mon tournage avec Hector. C'était lors d'une autre séquence. C'était un autre jour. On tournait la séquence où Bart dit à Louise qu'il veut avoir un enfant. Et effectivement, déjà la séquence était
scène,
émouvante.
D'ailleurs.
Et puis ouais, la scène était jolie, puis pour nous aussi ça l'était, et moi j'étais contente, tu vois, j'ai mon premier jour de tournage, j'ai tourné avec lui, voilà, je me suis dit la bouclée, et c'est vrai que je m'attendais pas moi-même à être autant émue à la fin de cette séquence-là. Je savais depuis deux mois que mon dernier jour de tournage arrivait, tu sais, mais c'est vrai que quand ça y est, c'est la fin, forcément t'es émue.
T'as été ému aussi par les centaines de fans aujourd'hui qui t'envoient encore des messages devant l'amour qu'il y avait pour ton personnage. Depuis, les fans vraiment aimaient ce personnage.
Ouais. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis le début, j'ai reçu que des messages extrêmement gentils et bienveillants concernant le personnage de Louise. Et alors là, ça fait une semaine que je suis, même plus d'une semaine que je suis troublée parce que j'ai reçu des messages même en amont de la diffusion.
Mais oui.
Alors, je peux pas répondre à chaque personne pour les rassurer, là. Dire que voilà, moi je vais bien et que.
Mais au moins t'en as l'occasion. Voilà, sur nos ondes, voilà. T'en as l'occasion aujourd'hui. Voilà, tu as plein de projets.
Vraiment très très gentil.
Ouais. Et ben oui, puis il y a plein de projets sur lesquels rebondir. En plus, c'est un très beau court métrage qui s'appelle Ma Biche, aussi avec notamment Brian Trésor au casting. La réalisation, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup aussi. Hein.
Exactement. Mais oui, il y a quelques années, je me suis mise aussi à écrire et à réaliser parce que pour moi, c'est un autre biais pour raconter des histoires. Et c'est assez complémentaire avec le jeu d'acteur. Souvent, on me demande, si je devais choisir entre l'un ou l'autre, vers où mon cœur irait. Et à ce stade, je réponds que je ne peux pas choisir. Voilà, j'aime profondément être comédienne et je me suis découvert une nouvelle passion d'écriture et de réalisation que j'espère continuer le plus longtemps possible. Et ce court-métrage Ma Biche, je l'ai tourné au mois de septembre dernier en région Corse avec des comédiens formidables, dont effectivement Brian. Écoute, il sera diffusé, c'est un festival qui a lieu à Paris et qui aura lieu le 13 juin et qui s'appelle C'est pas la taille qui compte, voilà.
Ah ouais, c'est chouette ça. Donc pour ceux qui sont à Paris, ouais, sur le coin, voilà, vous voulez aller voir ce court-métrage et puis il y aura peut-être l'occasion que tu puisses te présenter voilà ailleurs un petit peu en France. Le court-métrage c'est souvent un peu le laboratoire. Alors toi tu en as fait plusieurs. Ouais. J'attends ton long. Quand c'est que tu vas te lancer dans le long-métrage? Est-ce que tu as des envies là-dessus? Est-ce que tu as déjà des idées?
Ouais, j'ai des envies très fortes. Effectivement, tu l'as très bien dit, le court-métrage c'est un laboratoire, ça permet d'expérimenter des univers différents et là je travaille à l'écriture d'un long. J'en suis là, ben là depuis que je suis de retour à Paris, j'écris à fond. Et effectivement, j'ai envie de passer au long parce que j'ai déjà fait quelques cours et que j'ai envie de raconter des histoires un peu plus longues et puis surtout des histoires qui pourront être vues par un plus grand nombre parce que le court-métrage c'est génial, mais ça reste des diffusions un peu de niche. Ouais, il faut connaître les festivals, ça passe en télé, mais bon, c'est diffusé une ou deux fois, donc je me dis voilà, j'ai hâte de
pouvoir souvent faire très tard
des films. Et souvent très tard. Maintenant, il y a le replay. C'est quand même...
Ouais, oui, c'est le petit bonus. Après, tu as d'autres projets en théâtre, peut-être, ou des choses que tu as tournées et qui sont pas encore diffusées?
Non, là, je suis à fond sur les projets en développement. Et puis là, la série vient à peine de se finir. Donc, je me dis, on va voir ce que la vie me réserve.
Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir réagi là-dessus, Alexandra, sur voilà ce départ de Louise. Demain nous appartient, puis en même temps d'évoquer Ma Biche. On va suivre de très très près hein, tes projets de long métrage. On s'en reparlera régulièrement. On sera là pour t'accompagner évidemment sur cette aventure aussi en région, par chez nous. Voilà, Alexandra, ouais, merci beaucoup.
Merci infiniment à toi et puis à tous les auditeurs.
Voilà, et on aimait énormément Louise, on peut le dire, mais on aime énormément Alexandra aussi. Voilà, dans Chute, on écoute la télé, alors on te dit à très vite.
À très vite, je vous embrasse.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On parlera de la sortie du film, c'est magnifique, le nouveau film de Clovis Cornillac qui sera notre invité exceptionnel avec Lilou Fogli. Ils seront là tous les deux. On parlera également du grand final de Candice Renoir. Samira Lachab, également l'affiche de La Faute à Rousseau, sera notre invité. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer lundi prochain non plus. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute, on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants. Fabriqué en Charente-Maritime, Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.